RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
C'est le week-end des experts sur RMC, c'est la deuxième partie de notre rendez-vous jardin. Merci d'être là. Le jardin, 6h-8h, vous le savez. Avec à mes côtés notre expert jardin, le seul, l'unique, Patrick Mulan, qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et pour notre deuxième partie, Patrick, on va parler de fleurs sauvages et imaginer, et pourquoi pas, se créer un petit coin dans notre jardin, un petit coin sauvage.
Voilà, un petit coin qui donnera l'impression que c'est une nature spontanée. Alors, ce qu'on appelle jardin sauvage, souvent, c'est quand même un petit peu aussi une sorte d'Éden où on va faire une sorte de profusion de fleurs. Et pourquoi aujourd'hui plus qu'un autre pour vous parler de ça? Bah, tout simplement parce que il y a un grand événement qui se déroule depuis le 18 à Paris. Au plus bel endroit de Paris, pratiquement, parce que c'est au pied de la Tour Eiffel. C'est juste sur le
Champ de Mars.
Sur les quais, oui, qui sont à côté du Champ de Mars. Ça s'appelle Petite Fleur Folie.
Alors, Petite Fleur Folie.
Alors, ça vous dit rien, peut-être comme ça, mais si je vous dis Gadwell, ça vous dit quelque chose, Gadwell?
Non.
Si je vous dis La Grande Moisson. Alors, ça, c'était un moment.
Ouais, ça me dit quelque chose.
La Grande
ça.
Moisson, c'est il y a 25 ans, les Champs-Élysées avaient été, par ce monsieur Gadwell, recouvert complètement de blé sur toute la longueur.
Oui, tout à
fait. C'est un événement dont on se rappelle encore. Et il y a 5 ans, il avait aussi créé Nature Capitale et il avait fait un jardin, alors un petit peu avec toutes les plantes, les cultures possibles, etc. Même des choses qui venaient de l'étranger, enfin même j'avais du mal à trouver le nom. Et voilà, et on avait ça. Et alors là, aujourd'hui, on a 2000 mètres carrés. Alors c'est plus petit. Enfin, 2000 mètres carrés, rien que de fleurs.
C'est pas mal.
14 000 plantes vivaces, 6 000 graminées, 3 500 arbustes, 1000 annuels. Et tout ça produit en France en quelques mois.
C'est dingue ça. Et pour quelques jours.
Alors, et pour quelques jours. Et ça m'a semblé tellement invraisemblable, cette chose-là, que j'ai vraiment voulu qu'on en parle avec celui qui a été, en fait, je vais dire, le chef d'orchestre de ça, le coordinateur au niveau végétal. Il s'appelle Sylvain Conroux, il est avec nous. Il est pépiniériste horticulteur. Sylvain, bonjour, bienvenue.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors, cette présentation que je viens de faire sommairement, vous l'avez vécu. Oui, je dis l'avez parce que maintenant pour vous, c'est un petit peu la fin.
Oui, ça déroule. Mais c'est jusqu'à demain. Hein,
voilà.
Hein.
Alors, il y avait un challenge, il y avait même presque carrément un exploit à faire.
On a les plus belles variétés en France, il suffisait juste d'aller les récolter. L'exploit, c'est surtout Gadwell et Laurence Medioni qui, pour moi, le font avec toute cette audace que vous avez exprimée quand on parle des Champs-Élysées.
Voilà.
Il y a que eux pour faire ça. Et effectivement, moi, quand ils m'ont contacté, ça a été un vrai coup de cœur et je me suis passionné aussitôt pour ce dossier.
Mais on vous a dit, c'était quoi? Vous aviez quelques mois pour trouver les plantes.
Oui, il était un peu en retard à mon goût. J'aurais eu 2 mois de plus, ça aurait été plus simple pour moi. Mais pour autant, on a réussi à trouver de superbes variétés et on les a trouvées que chez des producteurs français.
Alors racontez-nous comment ça se trouve, parce que bon, voilà, évidemment, si on n'est pas parisien, c'est où exactement? Comment ça s'étale? Comment c'est?
L'événement Petite Fleur Folie?
Oui.
Voilà. Alors ça se trouve sur les quais de Seine, sous le pont d'Iéna et de chaque côté du pont d'Iéna, donc sur le quai Branly. Et donc on a la Seine à quelques mètres, hein, à 1 mètre ou 2.
Ah oui, on est au niveau de l'eau en fait.
On est au niveau de l'eau. C'est ça qui est magnifique, qui crée vraiment une poésie. Et puis quand on lève les yeux, on a le pont d'Iéna qui est magnifique.
Et la Tour Eiffel.
Et la Tour Eiffel derrière.
Et ah voilà. Mais c'est de l'autre côté de la Seine en fait, c'est ça?
Non,
c'est côté Tour Eiffel.
D'accord. Voilà.
Ah oui.
Et il y a les escaliers qui sont de chaque côté du pont d'Iéna, qui sont fleuris aussi. Et on a au niveau du Champ de Mars, on a aussi des grands massifs qui sont censés attirer l'œil un petit peu vers ce bel événement.
Du coup, il y a plusieurs jardins à thème. Il y a des thèmes sur ces jardins.
Et puis comment on se balade au milieu? En fait, vous avez fait des petites allées.
C'est de l'art de rue, hein, comme fait Gadwell avec Laurence Medioni. Ce sont vraiment des artistes qui veulent amener le végétal au plus grand nombre. Et donc, ils ont imaginé tout un ensemble de créatiles qui sont des structures qui vont être apportées là, qui représentent des abeilles, des vaches, un petit peu toute la biodiversité est censée se retrouver à cet endroit. Et c'est très ludique pour les enfants.
Oui, on peut jouer avec, oui, ça c'est incroyable. Voilà, ça.
Les enfants vont jouer avec et ils seront au cœur d'une explosion de couleurs.
Alors j'ai vu un truc, on peut faire tourner la terre. C'est ça. Non, il y a une sorte de plein, enfin, j'allais dire planisphère, non, de vraie sphère. Mmh. Et en fait, alors comment on fait? On se met ensemble et on tire sur un truc. Et en fait, on fait tourner c'est un peu une symbolique qui montre que quand on est tous ensemble, on peut presque faire un exploit, mais que tout seul, on n'y arriverait pas, quoi, globalement.
C'est exactement ça. Tout ça, ça a été fait pour les enfants, pour que ce soit très ludique, qui tire des petites conclusions, comme ça. L'abeille qui va aller butiner. Ensemble, on peut faire plein de choses. Enfin, on fait tourner la terre. Et puis, voilà, c'est toute la poésie qu'on retrouve dans les œuvres de Gad Veil et Laurence Medioni. Et moi, ça a été un plaisir d'y contribuer par ma compétence technique apportant des variétés.
Nous, les jardiniers, qu'est-ce qu'on vient y trouver là? Qu'est-ce qu'on va y voir déjà? Tiens, il y a des jardins qui sont, on dit naturels, fleurs sauvages, etc. Vous avez recherché donc quoi? De la légèreté, des fleurs, petites fleurs plutôt simples. Qu'est-ce qu'on va y voir?
Les auteurs avaient pris un parti de créer quelque chose de relativement naturel, de léger, de champêtre, qui est aussi une des tendances. Et pour exploiter au mieux les couleurs de toutes les vivaces, ils ont fait des thématiques de couleurs par massif.
C'est-à-dire donc on a là, un ils massif ont fait bleu. Du monochrome.
Oui, on peut dire monochrome.
Alors, donc, c'est des choses qu'on trouve pas dans la nature, ça, en revanche. La nature est rarement monochrome.
On l'a un peu aidé, ouais.
Donc là, en fait, ouais. on projette une vision un peu artistique de la nature, d'ailleurs, qui est très jardinière, parce que des tendances de jardin monochrome, ça s'est fait. Bon, c'est d'ailleurs presque ce qui est le plus compliqué, parce que là, il faut commencer à connaître bien le végétal.
Tout à fait.
Donc, vous avez combien de sortes de plantes, là, qui sont présentées ensemble?
On a à peu près 250 variétés.
Oui, donc on peut venir en tant que amateur de plantes et découvrir plein de choses. Et il y a des harmonies qui sont ensemble. On va pouvoir s'inspirer de tout ça pour son jardin.
Et c'est ça qui est très intéressant sur le côté monochrome, c'est que on peut comparer les plantes l'une à côté de l'autre et on va avoir un coup de cœur tout de suite sur une, alors que celle d'à côté, va nous paraître plus fade. Et les goûts et les couleurs, vous savez, en matière de jardin, là ça va. On va avoir un massif bleu et on va avoir 60 variétés bleues, par exemple. Et voilà, on va tous les gens, tous les goûts vont être attirés par une explosion de couleurs.
Et vous avez fait un plan avant ça? Vous saviez exactement les plantes que vous allez mettre à tel endroit? Ou alors, une fois que vous avez récupéré tous ces végétaux, vous les avez assemblés à l'inspiration?
Alors, l'artiste, au dernier moment, une fois que je lui ai apporté les végétaux, décide de la manière dont il les dispose. Par contre, on a évidemment programmé, recherché des variétés qui allaient pouvoir nous aider à créer un jardin le plus naturel possible et qui rappelle la prairie fleurie, quoi.
En fait, les végétaux, c'était les tubes de peinture et après, il fallait avoir le pinceau pour pouvoir être capable de les mettre au bon mettre les touches de peinture au bon endroit.
C'est ça. Et là, on a affaire à des artistes et donc, moi, j'apporte un soutien avec les végétaux, mais je dirais que mon travail, c'est de leur amener les plus beaux végétaux au moment où ils me le demandent.
Ce qui est sympa, de rappeler que c'est des végétaux qui ont tous été produits en France. Et ça, on voit le déficit qu'il y a sur la filière horticole française, moi je dis chapeau, merci.
Alors c'est super tout ça, on va en parler dans un instant, on va peut-être parler aussi de la logistique parce que j'imagine que organiser et construire en fait ces jardins éphémères en quelque sorte ça doit être un sacré défi, hein. On va en parler avec notre invité et puis bien sûr le 3216 jardin@rmc.fr si vous voulez poser vos questions. N'hésitez pas.
Oui, parce qu'ils sont sur le béton, il faut le dire.
Quand voilà, c'est ça, plantés, ouais. C'est ça, exactement. Donc, et puis au niveau timing aussi, j'imagine que tout pousse au bon moment pour que tout soit prêt au bon moment. On en parle dans un instant. 3216 jardin@rmc.fr, à tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan.
C'est le week-end des experts sur RMC et c'est le jardin et on visite en ce moment un jardin incroyable qui est au pied de la Tour Eiffel, un jardin éphémère qui se veut être sauvage, hein, et complètement artistique.
Voilà, artistique, onirique, ludique aussi puisqu'on peut y jouer, on peut même ressentir des choses. Oui, c'est pas des fleurs parfumées, on va pas.
Il y en a quelques-unes. Il y a très belles sauges qui sont voilà.
Ouais. Et on en parle donc avec Sylvain Conro qui est notre invité, qui est pépiniériste, horticulteur et qui a été un peu le maestro de tout ça. Comment ça se passe? Parce que bon, voilà, alors on peut visiter ce jardin jusqu'à demain dimanche, mais ça se prépare combien de temps en amont, ce genre de choses, ce genre d'événement?
C'est un projet qui a débuté il y a plus de 18 mois. Voilà. Par contre, sur les végétaux, moi j'ai été contacté il y a 2 mois et demi. ils avaient pris un peu de retard.
Il y a 2 mois et demi, on vous dit attention, il me faut je sais pas combien de milliers de fleurs, d'arbustes, etc. Ouais.
Et j'ai travaillé pendant 15 jours avec Laurence Médioni à choisir les variétés théoriques. Ce sont des variétés qui étaient nos premiers choix, qu'on souhaitait me voir mettre en culture ou trouver chez des producteurs. Et on avait une centaine de variétés, 150. Et puis, très vite, voilà, on a décidé de partir sur du 100% français parce que ce sont les valeurs de tout le monde sur cet événement. Et on a parcouru plusieurs pépinières. Enfin, j'ai parcouru plusieurs pépinières. Je suis allé voir mes collègues, des nouveaux, des jeunes, des plus anciens, des passionnés, quoi qu'il en soit. Voilà, on a modifié petit à petit les variétés en fonction de la période de floraison, parce qu'il y a des endroits chez un producteur, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de chaleur, et finalement il n'y a pas eu tant de chaleur que ça.
Oui, parce qu'il faut compter quand même le ciel.
C'est ça.
Et puis après, il faut installer tout ça. Donc il faut s'y prendre combien de temps à l'avance, parce que bon, tout ça c'est posé sur du béton, enfin sur un quai.
Oui.
Donc comment vous faites pour transformer
un quai en jardin,
en jardin sauvage en plus. Donc
alors là c'est moins ma partie, mais j'ai affaire à des experts qu'on fait les Champs-Élysées, donc j'étais vraiment rassuré et bien encadré. Pour autant, je surveillais mes plantes, l'arrosage, entre amateurs on connaît les périls de ce genre.
Ça se prépare combien de temps, une semaine à l'avance, ce genre d'événement?
Les plantes sont arrivées une semaine à l'avance, ouais, tout à fait. Elles sont expédiées une semaine à l'avance.
D'accord.
Elles sont restées 3 jours sous le pont d'Iéna, bien au frais, avec la Seine juste à côté.
Tremblé une par une dans la Seine.
J'étais le plus heureux des hommes à ce moment-là, c'est vrai.
Est-ce qu'on a le droit de pomper l'eau de la Seine pour arroser les plantes?
Eh ben écoutez, elles sont très bien portées, tout à fait.
D'accord.
J'ai pas demandé la permission.
Ah, vous l'avez fait. Oh, bah, fallait pas le dire. Là, tout le monde vous a entendu.
Ah, excusez-moi.
Et donc vous avez, mais parce que donc il faut mettre un système d'arrosage en place, etc. Ouais. Enfin, c'est quand même une sacrée logistique, non?
C'est vrai, c'est une sacrée logistique. Et la partie végétale, même si elle est importante dans l'image qu'elle apporte à ce projet, quand on voit l'organisation nécessaire pour faire vivre un moment
aussi court et
si sympathique aux amoureux du végétal. Moi je dis chapeau.
C'est un spectacle totalement gratuit, il faut bien le dire, n'importe qui peut y aller. C'est ouvert, je crois, ce soir jusqu'à 22h, demain jusqu'à 20h. Je crois que ça ferme un petit peu plus tôt que, ou 21h peut-être.
Ouais, mais on a tellement de succès que je pense que ça va traîner un petit peu.
Il n'y a pas de rigidité.
Non, puis nous on est heureux là, on a envie que la fête continue.
Avec François, on voulait quand même savoir comment justement, à partir d'une dalle de béton, on arrive à mettre toutes ces plantes en place, que ça tienne. J'ai vu dans le dossier de presse, il parlait de 350 m3 de paille. Non, on n'a pas utilisé de paille au final, je crois. Hein.
Non, au début, on devait travailler avec du paillage parce qu'on devait avoir plusieurs types de végétaux qui étaient dans des contenants plus ou moins gros. Par contre, il se trouve que c'est quand même un endroit qui est le port de Suffren et le port du Bourgonnais, où il y a des activités avec les bateaux de Paris qui sont partenaires de l'événement, et il y a une exploitation et on a des touristes qui déferlent toute la journée, et amener 330 m3 qui représentent
15 ou 20
hectares,
c'est facile à dire,
c'est très facile à dire, mais c'est impossible à réaliser.
C'est simple, ça fait 10 minimum, 36 tonnes,
après on peut les amener. Alors moi j'étais partisan qu'on les amène parce que je savais que les plantes seraient les mieux dorlotées,
faut les
rembarquer, et là ça posait vraiment un vrai souci.
Et alors donc c'est posé comment? Alors
c'est posé dans des plaques de culture, c'est ce que les horticulteurs utilisent dans leurs serres ou sur leurs planches extérieures. Ce sont des plaques qui retiennent un tout petit peu l'eau.
Qui sont en plastique. Voilà.
Et ça nous permet.
Ça permet de les maintenir en même temps un petit peu aussi, s'il y a un petit coup de vent.
Exactement.
Voilà. Et ça permet d'avoir toujours un petit peu d'eau au fond, de façon.
Donc les plantes sont bien là.
Oui, elles sont bien. D'ailleurs, la question qui me vient tout de suite, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça?
C'est distribué à la mairie de Paris et à des mairies du Grand Est parisien. Tout est donné, des maisons de retraite, et
ça va
se retrouver dans des massifs.
Tout va être recyclé,
tout à fait.
Oui, parce qu'en fait, les plantes, elles vont pas avoir été tellement stressées, elles sont restées dans leur conteneur.
Ah non, je les ai chouchoutées, vous pouvez compter sur moi. Non. Tout est distribué dans l'espace vert, dans l'espace collectif, et c'est une deuxième vie pour le projet. Comme les créatifs sont distribués dans des grandes villes pour aménager des parcs et des choses comme ça, parce que tout a été calibré pour les normes d'accès
public, la sécurité, voilà. Tout ça.
Toute la sécurité, donc, et les plantes vont, elles, être diffusées dans les espaces verts.
Mais bon. Vous allez faire des frustrés, parce que je pense qu'il y aura des gens qui vont dire, oh, tiens, j'aurais bien aimé acheter celle-là, elle serait bien dans mon jardin.
Ah oui, dimanche soir, il y en a qui vont vouloir un petit peu.
Tout le monde aurait voulu acheter des plantes. Enfin bon, tant pis. Alors ben, maintenant, on va parler un petit peu de comment faire un petit jardin sauvage.
Voilà. Après avoir parlé de cet événement, on va s'intéresser à nous. Est-ce que sur notre petite terrasse, dans notre petit jardin, on peut arriver à faire quelque chose?
Sur la terrasse sauvage, ça va être un peu compliqué. Mais il y a des tentatives.
Allez, on va en parler dans quelques instants avec toujours notre invité. Et bien sûr, vos réactions, vos questions possibles, hein, vous pouvez nous joindre à tout moment. 3216 ou jardin@rmc.fr. On revient après la météo, les infos de 7h30.
Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, Votre Jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Et voilà, nous sommes de retour, le week-end des experts, le jardin sur RMC. Nous sommes là jusqu'à 8h avec Patrick Mulan. Et puis juste après, ce sera notre rendez-vous maison, avec vos questions bricolage, maison, déco et Christian PC et un spécial assurance. Entre 9h et 10h, voilà, on retrouvera toutes vos questions sur ce sujet aussi. Patrick.
Oui.
Les fleurs sauvages, les petits jardins sauvages, voilà. On en parle avec notre invité.
Alors je crois que vous avez été un petit peu osé, mon cher François, en disant est-ce qu'on peut se faire un petit jardin sauvage sur un balcon? D'une manière générale, un jardin d'aspect sauvage...
Il faut qu'il y ait quand même de l'espace, non? C'est ça.
Exactement. Vous pour avez qu'on puisse anticipé, apprécier. Mais François devient de plus en plus jardinier. Non, mais c'est extraordinaire. Depuis qu'il a sa terrasse, là, il ressent les choses, il a bien compris. Effectivement, bon, un tout petit espace, faire en sauvage, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas la densité de floraison, etc. Et d'ailleurs, on discutait avec Sylvain Conraud, là, ils n'ont pas fait une jachère fleurie comme on aurait pu imaginer, justement pour qu'il y ait un effet de masse et d'intensité florale beaucoup plus spectaculaire. Alors, toutefois, il existe des tentatives, je vous disais, et il y a une entreprise qui est bien connue qui s'appelle Novaflore, qui fabrique des mélanges floraux, donc des graines, et qui a proposé pour les jardiniers amateurs des possibilités de faire une petite jachère dans une jardinière, etc. Alors, bon, j'avoue que personnellement, je trouve pas ça très enthousiasmant au niveau du résultat. En revanche, c'est rigolo à faire parce que vous semez vos graines, vous voyez, ça lève et c'est sympa. En revanche, quand vous avez un jardin, bon, même un petit jardin de banlieue, imaginez de le faire au naturel, enfin, d'inspiration naturelle. Oui, pourquoi pas. Après, moi, je pense que c'est peut-être au niveau paysager, la chose la plus difficile à réaliser, c'est de recopier la nature, Sylvain.
Ah oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, les vivaces nous aident beaucoup. Avant, on utilisait beaucoup les annuelles.
Oui.
Voilà. Maintenant, on a quand même énormément de graminées qui sont disponibles chez les producteurs et de superbes vivaces avec des coloris qui sont soit très chatoyants, comme on avait dans les annuelles, ou alors très discrets, très paisibles.
Par exemple, il y a justement là, dans Petite Fleur Folie, les fleurs stars, les plantes stars qu'il y a actuellement, qui vous ont semblé être les plus adéquates pour ce type d'usage.
Alors il y a la catanache que j'ai beaucoup.
La catanache, oui. Ouais, catanache cerulea, oui. Ça imite le bleuet, on va dire. Voilà, oui, ça va remplacer le bleuet.
Exactement, mais c'est du solide, c'est-à-dire que c'est une plante un peu plus passe-partout, un peu qui va nous donner de l'effet un peu plus longtemps.
Voilà, ça dure plus longtemps. Et le défaut effectivement des annuelles sauvages comme les coquelicots ou comme les bleuets.
Les coquelicots, oui,
c'est éphémère quand
Combien
même.
Combien de temps ça dure un coquelicot?
Alors cette année, à côté de chez nous, il y a des tentatives de créer des jardins écologiques. Ils ont fait une prairie de coquelicots et elle a pas mal duré. On va dire qu'elle a été en fleurs pratiquement 3 semaines. Alors avec quand
c'est
même,
pas mal, hein.
Oui, c'est pas mal du tout même. Avec toutefois un bémol, c'est qu'il y a eu une journée de forte chaleur et ça vous ratatine dans la journée l'ensemble de toutes les corolles. Ce qui veut dire que il faut attendre 3 ou 4 jours avant que les fleurs qui étaient encore en bouton, parce que un coquelicot, c'est assez sympa, c'est une plante qui évolue. Donc elle commence à faire une sorte de petit bouton qui fait la prière comme ça, la révérence, il a la tête vers le bas. Il s'éclate, il s'ouvre. Alors déjà, quand il commence à s'ouvrir, il se fend sur les côtés et vous avez le rouge qui commence à apparaître. Mais ça fait du rouge et vert. Et puis, pof, il s'ouvre. Donc ça fait cette petite jupe légère, élégante qu'on connaît.
Ouais.
Et ensuite, et ça c'est joli aussi, il se transforme en capsule, on appelle ça, c'est-à-dire donc le fruit qui ressemble à une sorte de plus ou moins pomme d'arrosoir comme ça. Et donc la plante, elle n'est pas désagréable à voir en permanence. Et il y a des boutons donc qui se renouvellent donc sur ces 3 semaines. Donc ça c'est assez intéressant. Et on parlait des bleuets, ils viennent après. Ah, généralement, d'accord. À la fin des coquelicots, vous avez les premiers bleuets qui arrivent. Donc on peut avoir des jachères fleuries comme ça qui sont assez sympas. Mmh. Et alors je peux vous dire qu'au niveau, il l'avait fait notamment pour ça, au niveau pollinisateur, c'est incroyable. Alors ça,
ah oui, alors là, il y a du monde.
Donc là, on était sûr. Alors, on parlait de coquelicots, mais Sylvain, est-ce que vous avez utilisé, vous, des pavots d'Orient, par exemple?
Oui, pour... il y a 4 variétés de pavots.
Voilà, donc on peut aussi, avec une vivace, remplacer le coquelicot. Alors là, on a des fleurs plus grosses, généralement.
Oui, mais de loin, ça ne change pas grand-chose.
Moi, dans le jardin, j'adore le pavot d'Orient. Mmh. Attendez, c'est magnifique, hein, quand même, il faut bien le dire. C'est des plantes. Alors après, ça s'écroule un peu. Ça a tendance à... Mais bon, là, vous en fichez, vous, le jardin, c'était moins d'une semaine.
Ah bah là, oui.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plante, par exemple, je sais pas, moi, je mettrais bien dans un jardin sauvage des ombellifères, par exemple, des carottes sauvages, ou de l'ami, ou du fenouil, ou de l'aneth, ou des choses comme ça.
Eh ben, on a mis du fenouil. C'est très léger, très vaporeux, et en arrière-plan dans un jardin, en effet de masse, c'est superbe. Enfin, et là, ça nous permet après de mettre plein de plantes fleuries de couleur blanche, ça se marie très très bien. Et on a un jardin qui est vivant et là on récupère encore plein de petits insectes, plein de pollinisateurs qui vont aller vivre dans tout ça.
Ce qu'il faut dire, c'est que il faut pas que c'est que des fleurs. Il faut quand même qu'il y ait une partie de feuillage, parce que sinon. Par exemple, c'est un peu la tendance malheureuse, je dirais, que ont certains obtenteurs aujourd'hui à vous faire des fleurs qui sont plus gros que les plantes. Vous trouvez aujourd'hui des œillets d'Inde dont la fleur, elle est plus grosse que la plante elle-même. Je peux vous dire que c'est d'une laideur absolue. En revanche, si vous avez une bonne proportion entre le feuillage et la fleur, moi je dirais que ça peut être... Je sais pas, de l'ordre de 50%, quoi, ça, moitié-moitié.
Et la nature trouve cet équilibre automatiquement, parce que justement, là, comme on essaie de reproduire un décor sauvage.
La nature, elle est pas aussi fleurie que ça. Regardez bien, c'est rare que vous ayez une explosion de fleurs, quoi.
Bon, à part parfois les champs de coquelicots.
Le champ de coquelicots. Voilà. Le champ de coquelicots, ça va être le truc que vous allez avoir fort, ou alors certaines plantes invasives que vous pouvez avoir, comme les doigts de sorcière que vous connaissez bien au bord de mer, là. Ça vous fait des tapis entiers qui sont complètement couverts de fleurs. Mais globalement, la nature est pas très, très florifère. Elle fait des fleurs, mais elle les fait de façon étagée. Et c'est un peu ça qu'on peut reprocher peut-être dans un jardin personnel, si on veut vraiment faire du sauvage, c'est qu'on va pas avoir la durabilité de floraison que l'on pourrait avoir envie. Allez avoir parfois des fleurs qui durent que 8 jours, 15 jours. Alors dans ces cas-là, c'est pour ça que je dis que c'est très compliqué. C'est qu'il faut que vous connaissiez suffisamment le monde végétal pour vous dire je vais prendre cette plante, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, pour avoir
une espèce de chemin de fer,
de floraison.
C'est un peu compliqué.
Et après, c'est la dissémination. Alors moi, je vais vous donner un conseil, c'est que globalement, la nature, elle a 2 choses. C'est un, elle a horreur du vide, et 2, elle est complètement, on va dire, anarchique. Mais avec une anarchie esthétique. Donc, ne plantez pas un jardin sauvage comme vous planteriez un massif. Le truc, on le fait très souvent avec des bulbes, par exemple, c'est vous prenez vos bulbes et vous les balancez comme ça, vous les jetez au hasard et vous allez les planter là où ça tombe. Et bien là, dans le jardin sauvage, avec notamment, par exemple, des mélanges fleuris, et bien d'abord, conseil aussi, quand vous avez vos graines, vous les mélangez à la main. Parce que les graines qui sont dans les boîtes, elles n'ont pas toutes le même calibre ni la même densité. Si elles ont été stockées pendant plusieurs semaines, eh bien vous allez avoir les plus lourdes qui vont tomber au fond. Donc si vous prenez ça comme ça, bah vous allez avoir des taches. Or la nature, elle fait pas de taches. La nature, elle fait des associations. Donc vous allez mélanger tout ça et vous allez semer. Secret pour réussir le semis de jachère fleurie.
Parce que parfois on peut se dire qu'on en met trop ou pas assez.
Alors il faut plutôt en mettre beaucoup, parce que si vous semez léger, ça va faire un peu maigre. Et le secret, c'est de semer en croix. C'est-à-dire, vous passez une fois dans le sens de la longueur, et après vous allez semer une autre fois dans le sens de la largeur. C'est-à-dire que vous allez croiser votre semis, puisqu'on fait un semis à la
volée. Mais à chaque fois, quelle est la densité de ce qu'on jette, du semis qu'on jette? Ça, c'est du ressenti.
C'est un peu le ressenti. On va dire qu'une grosse poignée.
Sylvain, si vous voulez.
Une bonne poignée de graines sur un mètre carré.
Oui. Je vais pas l'expliquer mieux
que Patrick.
Que Patrick.
D'accord. Faire une grosse poignée de graines au mètre carré.
D'accord.
Ça va le faire. Alors, si vous savez pas bien semer, il y a des techniques. Vous pouvez soit mélanger un peu de sable ou de la cosse de sarrasin. On trouve ça. Et donc, d'avoir plus de volume. Et à ce moment-là, vous mettez deux poignées ou trois poignées, mais vous aurez la même quantité de
graines. Ça va mélanger, en fait.
Voilà.
D'accord.
Il faut faire des leurres, si vous voulez. Bon. Après, bien sûr, sur un jardin comme ça, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup arroser. Beaucoup arroser.
Et oui, bien sûr. Alors, on va revenir dans un instant. On a encore plein de choses à dire.
On va aller chercher les plantes que Sylvain nous a mis sous la tour Eiffel. C'est trouver quelques petites plantes pour vous conseiller dans votre jardin.
Et voilà, c'est vrai, parce que maintenant, il va falloir lister un petit peu tout ce qu'on pourra mettre.
Hein. Exactement.
3216jardin@rmc.fr. On évoque ce matin les fleurs sauvages dans ce rendez-vous jardin. À tout de suite. On est là dans 2 minutes.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Le week-end des experts, le jardin, avec Patrick Mulan qui m'accompagne jusqu'à 8h. Et puis après, on changera de registre, puisque ce sera la maison, avec Christian PC et toutes vos questions bricolage, maison, déco. Patrick,
oui.
On poursuit donc avec les fleurs sauvages. Alors maintenant, on va essayer de lister... Ben justement, ce qu'on peut planter.
Voilà, alors on va demander à Sylvain déjà, bon, il nous a déjà donné quelques plantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau à voir? Enfin, de beau, je suis méchant en disant ça, parce que tout est beau, mais les plantes vraiment qui seraient spectaculaires et que vous n'avez pas particulièrement appréciées au cours de cette expérience.
Je vais évidemment essayer de vous en donner, mais vous vous doutez bien que si j'ai choisi les plus belles que j'ai vues avec mes tours de France, je les aime toutes, évidemment. Il n'y en a pas que j'aime pas.
Mais là, les 120, ça va être compliqué.
Non, on pourra pas. Mais il y a des agastaches qui nous donnent des beaux coloris.
Alors ça, c'est vrai
agastache.
Que... Alors, agastache, ça fait des espèces d'épis, un peu comme si c'était des barbes. Ça fait un peu, c'est assez drôle comme plante. Il y a beaucoup de cultivars maintenant. C'est très, très mellifère. C'est-à-dire que ça attire vraiment les abeilles et les bourdons.
D'accord.
Et c'est une plante que l'on peut utiliser. Est-ce que c'est, on peut dire, aromatique? Oui, un peu. C'est une plante qui fait partie un peu du domaine des aromatiques. Alors, de quelle couleur les vôtres?
Elles sont plutôt oranges.
Plutôt oranges.
On les a choisies en orange.
D'accord. Il y en a des roses, des violettes.
Mais ça se trouve facilement, ça?
Oui, agastache, ça se trouve facilement. Alors en plant, peut-être pas, mais en graines, ça se trouve très facilement.
D'accord. Donc là, on va dans n'importe quelle jardinerie et puis on achète
oui.
ça.
Oui.
Ok. Agastache, ok, c'est noté. Sylvain, autre chose.
Une plante qu'on a utilisée quasiment dans toutes les couleurs sont les achillées. Qui sont vraiment champêtres et très généreuses en été, qui sont assez faciles, qu'on peut placer à peu près n'importe où dans le jardin.
Alors les achillées, c'est très intéressant parce que là on est vraiment dans la plante sauvage. À l'origine, l'achillée millefeuille, Achillea millefolium, c'est une plante que l'on trouve dans les prairies. Millefolium, pourquoi? Parce que la feuille est très 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 découpée comme si elle avait 1000 feuilles et elle fait une ombelle. La plante naturelle, enfin sauvage, est blanche, mais les horticulteurs ont créé depuis quelques années une foule de variétés qui vont du rose au rouge violacé foncé, en passant par le jaune et le violet, et l'orange, excusez-moi. Donc on a l'ensemble de cette palette, et ça c'est aussi, alors c'est pas forcément très mellifère, mais les papillons adorent. Ils vont vraiment sur les achillées, donc ça c'est aussi une plante. Alors là on est dans la vivace qui a vraiment un aspect très sauvage. Là on est vraiment vraiment bon.
Ouais, Sylvain, alors juste...
J'adhère, j'achète comme ça.
Juste pour revenir à l'événement qui se déroule en ce moment, donc au pied de la Tour Eiffel, est-ce que ça fait venir des insectes? Justement, est-ce que, par exemple, on a des abeilles, des papillons qui viennent?
Et oui. C'est et oui, on en a vu plein et
c'est
vraiment sympa.
C'est ça qui est incroyable, que même en créant ce petit jardin éphémère, eh bien, ça attire des insectes qui pendant quelques jours vont venir là.
Paris n'a pas l'air comme ça, mais il y a quand même une densité d'espace vert qui est pas négligeable et qui ne fait que augmenter.
Mais
c'est vrai
que
il y a une attractivité du fait qu'effectivement, c'est quand même, vous avez raison de relever ça parce que je suis une abeille.
Mais c'est vrai.
J'ai l'habitude d'aller
Du côté du Champ de Mars,
voilà,
par exemple.
Je suis une abeille, je vis pas longtemps en plus.
Ouais, ouais.
Donc j'ai été faire quelques explorations comme ça, et tout d'un coup, pourquoi je vais aller là-bas, dans cet endroit
où
la veille,
hein.
Non mais la veille j'y suis allé, il y avait rien. Ouais. Et tout d'un coup, paf, je trouve mais là, il y a quelque chose qui est phénoménal.
On peut imaginer qu'il y a des sens, enfin, qu'ils ont
Non, il doit y avoir certainement des effluves, des choses font, mais c'est quand même assez extraordinaire de voir ça, effectivement. Bon, après, en fonction de la chaleur, elles sont très nombreuses.
Cela dit, il y a peut-être aussi des insectes que vous avez amenés, sur place.
Bien sûr, il y a toujours des insectes
qui étaient là avec les plantes.
Ouais, sans doute aussi.
Alors ceux-là, ils sont un petit peu déracinés. Ouais, ils font partie des émigrés là.
Bah oui, c'est les insectes de province qui viennent à Paris.
Donc on va faire des hôtels à insectes. Comme...
Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils prennent la péniche, hein, qui est pas loin.
Enfin, c'est un peu politiquement incorrect ce que je dis.
Oui, c'est vrai, c'est pas bon.
Alors, mon cher Sylvain, qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau?
Alors, on a des beaux cosmos et des échinacéas. C'est vraiment la mode tout de suite. Et on a des plantes très, très graphiques, très, très recherchées.
Alors, échinacéa, c'est une marguerite de couleur. Ça fait partie du groupe des marguerites d'automne, mais ça fleurit beaucoup plus tôt que l'automne et ça va fleurir jusqu'à l'automne. Et effectivement, il y a eu ces dernières années des centaines d'hybridations au niveau des échinacéas avec des au départ la plante s'appelle Echinacea purpurea. Donc c'est une plante d'origine américaine et qui vit spontanément dans les prairies américaines avec des fleurs qui ressemblent à des marguerites exactement mais pourpres. Mais aujourd'hui, il en existe de toutes les couleurs et même des vertes et même certains qui ont des ligules tout à fait particulières. Vraiment, c'est une bonne idée. Et là aussi pareil, ça c'est souvent butiné ça aussi les échinacéas. Graminées peut-être quand même aussi.
Alors oui, des graminées, mais là
on en voit partout. C'est des bouches-trous.
C'est les bouches-trous, mais c'est ce qui nous fait aussi ce côté champêtre.
Voilà.
C'est indispensable. Si vous plantez que des vivaces à fleurs, votre jardin il sera pas plus beau qu'avec des annuelles. Ce qui est joli, c'est que le vent balaye un peu tout ça, que les coloris soient harmonieux. Moi j'aime beaucoup. Il y a une plante qui me paraît indispensable, c'est le leucanthémum.
La marguerite.
Voilà, la marguerite. Parce que si on veut avoir un jardin un peu sauvage, cette fleur qui va nous fleurir deux mois en fin de printemps, en début d'été, eh ben elle est indispensable.
Alors moi je vais vous dire un truc sur la marguerite, c'est la taille au-dessus de la pâquerette. Mais globalement, ça fait le même effet. Et surtout laisser pousser les pâquerettes. Avoir des pâquerettes dans sa pelouse, alors c'est vrai que c'est une ineptie, une hérésie, tout ce qu'on veut, par rapport à l'archétype standard de la pelouse, mais quand vous avez au printemps, là, c'est la neige sur votre jardin, c'est formidable, et puis là, ça pousse tout seul, et ça vous embête pas, c'est pas la plante envahissante possible.
Alors en revanche... Ça dure combien de temps, ça?
La pâquerette, beaucoup plus longtemps qu'on peut l'imaginer, si l'hiver a pas été très très froid, ça va vraiment fleurir au... premier jour de mars.
D'accord.
Et puis vous en avez jusqu'à mai. Ah oui. Et puis bon, la pâquerette c'est bien, c'est-à-dire que vous pouvez même passer la tondeuse dessus, swing, hop, trois jours après, hop, ça elle revient. Elle a dit, je suis encore là. Donc ça c'est vraiment quand même une plante qui est sympa. Il y a un truc que vous avez pas dû mettre parce que c'était pas possible, je pense techniquement, mais le pavot de Californie, Escholzia californica. Si vous voulez faire un jardin sauvage et surtout pas vous embêter, vous semez ça à la volée. Ça vous fait des beaux pavots orange, et ils sont rustiques, c'est-à-dire qu'ils sont pas vivaces, mais ils vont revenir d'une année sur l'autre. Et c'est peut-être un des charmes du jardin sauvage, ou du jardin style sauvage, c'est de le laisser bouger d'une année sur l'autre. C'est-à-dire de laisser les plantes conquérir l'espace à leur manière. Au départ, vous leur imposez un endroit, mais après, elles vont se déplacer dans le jardin. Et il y a plein de plantes qui font ça. Les digitales le font très bien, les roses trémières le font très bien. Il y a d'autres, les soucis aussi. Voilà, le souci, c'est une plante sans souci. Voilà ce genre de plante que vous pouvez vraiment accueillir facilement. Après, méfiez-vous. Par exemple, on parlait de fenouil. Là, il y a eu du fenouil. Moi, je sais que le fenouil bronze chez nous était devenu vraiment envahissant. Je savais plus quoi en faire. Ouais. Donc là, il y a des petites limites.
Et après, côté arbuste, si on veut prendre des trucs un peu plus gros calibre, qu'est-ce qu'on peut imaginer?
On va être dans la simplicité. C'est-à-dire que la fleur double, elle n'existe pas ou très peu dans la nature. C'est-à-dire qu'il va falloir rechercher ce qu'on appelle la plante botanique, c'est-à-dire la fleur d'origine. Mmh. Par exemple, je prends le cas, mettons, des seringas. Le seringa, donc, qui finit sa floraison là en ce moment, donc qui est un arbuste très facile à cultiver, grosse fleur blanche, parfum extraordinaire, sauf qu'on trouve dans le commerce pratiquement que des fleurs doubles. Or ça le fait pas au niveau sauvage. Et puis, c'est pas très joli. Les Keria, les Corettes de Japon, par exemple, on ne trouve que des variétés à fleurs doubles dans le commerce. C'est une ineptie. La forme simple, elle est beaucoup plus belle. Je sais pas pourquoi on le cultive pas.
D'accord. Donc, vous voyez, il y a tant de choses. Et donc ça, c'est très difficile à trouver. en fait.
Bon, non, parce que vous pouvez mettre des rosiers sauvages. Ouais. Attendez, la tendance moderne, là, on avait parlé du fameux rosier Naturen, qui a été baptisé à Lyon il y a quelques semaines. Bah, ce rosier-là, il est à fleurs simples. Tiens, on avait parlé aussi de Lambert Wilson. Il a une rose Lambert totalement Wilson. Simple. Mmh. Donc, on est quand même aussi dans une tendance de créer aussi des choses un petit peu plus légères, un peu plus gracieuses, un peu plus naturelles. Et puis, alors, bon, si vous voulez vraiment faire quelque chose qui a l'air vraiment sauvage, il faut peut-être aussi choisir des plantes de votre région. Mmh. Ne mettez pas un palmier en plein milieu des Ardennes, ça, même si on peut en faire tenir, ou des yuccas ou des choses comme ça. Ça, c'est pour les zones plus sud, voilà. Donc simplement d'être en harmonie avec la nature.
Merci beaucoup Sylvain d'avoir été avec nous ce matin.
Voilà. Merci de votre accueil.
Merci. Voilà.
Et donc jusqu'à demain
merci
soir.
Merci pour le travail qui a été fait, oui, parce que ça, c'est vraiment quand même génial.
Direction le pied de la Tour Eiffel, voilà. À côté
petite
de la
fleur folie. Petite fleur folie qui est un petit peu parrainée par la marque de la petite fleur.
Et oui, Yoplait donc, pour être précis.
Exactement.
Voilà. Et c'est plutôt un joli coup de com' d'ailleurs au passage. Merci beaucoup. Et Patrick, on se retrouve bien sûr dimanche prochain, samedi prochain.
Ça sera 6h08. Mieux, voilà, exactement. J'embrasse tout le monde, les jardinières et ma petite jardinière. Je vous dis à la semaine prochaine.
Et dans un instant, après la météo, les infos de 8h, la maison. Et Christian PC qui me rejoint. On parlera tout à l'heure entre 9 et 10 des assurances liées à la maison. On a pas mal de choses à vous dire, bien évidemment. À tout de suite.
Retrouvez votre jardin en podcast sur rmc.fr.